Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre balade musicale. Je suis ravi de vous retrouver en ce samedi matin, j'espère que vous avez passé une belle semaine. On est ensemble jusqu'à midi, avec aujourd'hui deux invités. Nicolas Candoni, le tout nouveau directeur général du Festival de Saint-Denis, va nous présenter la programmation de cette année, très riche et ouverte à de très nombreux styles musicaux. Une 57e édition d'un festival très soucieux de son environnement et poursuivant une histoire commune à l'ensemble des habitants de son territoire. Et le violoniste Daniel Garlitsky nous parlera de la résurrection du quintet du Hot Club de France, dont il est l'un des deux leaders. Cette nouvelle formation vient de sortir son premier album dans le prolongement de l'esprit du quintet mené par Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, qui a donné à la France son apport le plus original à l'histoire du jazz.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Nous avons le plaisir d'accueillir le nouveau directeur général du Festival de Saint-Denis. Bonjour Nicolas Candoni.
Bonjour.
Ravi de pouvoir nous entretenir avec vous de ce magnifique festival, fort d'une histoire riche de 56 ans, alliant musique classique et patrimoine architectural au cœur d'un territoire populaire en mouvement et de la basilique cathédrale Saint-Denis, premier chef-d'œuvre de l'art gothique. Vous êtes passionné de musique classique depuis votre plus jeune âge, formé au violon au CRR de Cergy-Pontoise. Vous avez mené une carrière remarquable dans le secteur public et culturel, en ayant notamment occupé pendant près de 10 ans d'importantes fonctions à la mairie de Paris, en particulier comme chef du bureau de la musique. Vous avez accompagné des institutions musicales prestigieuses, telles que le Théâtre du Châtelet et la Philharmonie de Paris, n'est-ce pas ?
Oui, merci Christophe de cette présentation. Alors d'abord, vous avez touché un point sensible dans cette présentation et je vous en remercie en citant mon passage, ma formation au CRR de Cergy-Pontoise qui traduit mon attachement et mes origines puisque je suis né en effet dans le Val d'Oise et je crois que la question territoriale d'un festival, c'est-à-dire à quel public on s'adresse, elle est essentielle et ce festival est en Seine-Saint-Denis, il est à Saint-Denis, mais à mon sens, évidemment, il a vocation non seulement à s'adresser aux Dionysiens et aux habitants du département, mais bien sûr aussi aux habitants du Val-d'Oise, qui sont quand même des habitants proches de ce festival. Et je trouve que c'est formidable que les Val-d'Oisiens puissent aussi profiter de ces propositions-là.
Pardon de vous interrompre, mais justement, pour rajouter un peu de l'eau à votre moulin, depuis la gare d'Enghien, pour la gare de Saint-Denis, c'est simplement 3 stations et c'est moins de 10 minutes.
Je vous confirme puisque je viens de Saint-Denis et je vais y retourner en train évidemment et absolument pas en voiture et je confirme que c'est extrêmement rapide et je crois que si on prend cette ligne qui nous emmène jusqu'à Valmondois, on peut effectivement aller finalement facilement au Festival de Saint-Denis en transport en commun avec des concerts qui sont à la fois le soir en semaine mais aussi le dimanche en fin d'après-midi et qui peut être un moment aussi extrêmement agréable et qui permet de rentrer chez soi pour dîner ensuite, même si on n'habite pas à Saint-Denis.
Et donc de venir en famille pendant le week-end.
Venir en famille pendant le week-end, alors venir en famille pour l'ensemble des concerts, et je crois que vraiment on a une série de concerts qui peuvent s'adresser à un public familial, et puis des concerts plus spécifiques aussi qui ont été pensés, formatés avec les artistes pour vraiment s'adresser expressément au jeune public, et je pourrais dire un mot, si vous le souhaitez, de ces quelques moments qui vont démarrer dès cette semaine d'ailleurs.
Alors cette programmation du 57e Festival de Saint-Denis met à l'honneur des femmes cette année.
Oui, il se trouve que c'est évidemment un sujet majeur dans le monde de la culture et dans la musique classique en particulier. C'est la question et l'enjeu de l'égalité femmes-hommes qui n'a pas forcément été tout à fait le consubstantiel de l'histoire et de l'interprétation au cours des décennies passées. Et aujourd'hui, il y a une mobilisation forte de l'ensemble du secteur, de l'ensemble des institutions pour que les femmes retrouvent la place qu'elles auraient dû toujours avoir et qu'elles ont pu avoir par moments dans le passé, même si ça a été largement occulté dans l'histoire de la musique. Et donc, moi, je suis très très heureux et très fier qu'aujourd'hui, ce festival, non pas qu'il ait été pensé pour dire, on va avoir que des femmes, mais par contre on est, enfin moi je suis fier et je suis heureux de se dire les flammes sont en, les femmes sont en bonne place dans ce festival, et on va pouvoir du coup trouver plein d'artistes exceptionnels à cette occasion.
Alors c'est une édition qui avait été préparée par Nathalie Rapaport à laquelle vous avez succédé.
Alors effectivement, puisque les programmations en musique classique se font évidemment en amont, on le sait. En revanche, moi ce que je dis, c'est que je suis très heureux d'hériter de cette programmation.
Bien entendu.
Et fier de la présenter, de la porter et de la partager dans les jours qui viennent avec les publics.
Alors nous allons parcourir ensemble quelques moments forts, parce qu'on ne peut pas parler de tous les concerts, mais bien sûr le public pourra se référer sur le site de, je crois, du festival.
Alors sur le site du festival, on va retrouver alors l'ensemble de cette programmation date par date. Donc c'est www.festival-saint-denis.com, enfin tiret entre saint et denis.com, ou par téléphone au 01 48 13 06 07, où nous avons une personne qui sera un plaisir aussi de vous renseigner et de vous guider dans le choix des concerts. Donc on a des concerts qui démarrent dès cette semaine pour le jeune public, mercredi, jeudi, et à partir de week-end prochain, très régulièrement. Et donc voilà, on peut en citer quelques-uns, même si évidemment j'aurais rêvé de vous parler de chacun de ces concerts. Effectivement, la référence au site ou au programme pourra combler ces lacunes.
Alors un premier moment fort, lundi 2 juin 20h30, grande scène de la Basilique Cathédrale Saint-Denis, carte blanche au pianiste Alexandre Tarot et ses amis.
Alors, évidemment, c'est le premier concert dans la basilique, donc un moment emblématique, un moment fort de cette séquence du festival de Saint-Denis. Alors Alexandre Tarot est un pianiste formidable qui est un habitué du festival de Saint-Denis, et je le dis parce que je trouve que c'est important pour un festival d'avoir aussi des fidélités qui font l'identité d'un festival, qui font son style. Et Alexandre Tarot en fait partie, puisqu'il est venu depuis au moins 1999, si ma mémoire est bonne.
Très fidèle, donc.
Très, très fidèle.
Et très apprécié du public.
Et très apprécié du public, parce que c'est un artiste multiple, c'est un artiste qui aime aussi explorer des répertoires, des formes variées, et qui aime sortir finalement aussi d'un répertoire extrêmement classique, même si il excelle dans toute une série de grandes œuvres du répertoire. Il est venu d'ailleurs au festival il y a très longtemps jouer les variations Goldberg de Bach, qui n'est pas la moindre des œuvres du répertoire pour clavier. Et donc on sera sur un registre un peu différent le 2 juin où on aura à la fois des grandes œuvres du répertoire et on aura aussi des explorations plutôt autour de la chanson française, qui est quelque chose qui tient à cœur depuis longtemps à Alexandre Tarot. On le sait, il a sorti déjà plusieurs disques, fait plusieurs concerts avec différents artistes, et nous aurons quelques guests avec un concert sur un programme qu'il souhaite assez surprise. Donc j'ai envie de dire, laissons-nous surprendre par Alexandre Tarot le 2 juin à la Basilique.
Ils seront d'ailleurs accompagnés par l'ensemble Le Balcon, dirigé par Maxime Pascal, que nous apprécions beaucoup.
Excellent ensemble, excellent chef, qui fait une carrière internationale aujourd'hui assez exceptionnelle. Et donc nous sommes là aussi très fiers d'avoir cette rencontre au festival.
Alors, comme nous sommes en plein festival de Cannes et qu'Alexandre Tarot aime beaucoup le cinéma, nous allons l'entendre dans Le Roi et l'Oiseau, une musique de film emblématique que vous aimez beaucoup, je le sais. Nous nous sommes parlé hors micro.
Absolument, c'est un ouvrage qui marque une vie, qui est très fort et qui s'adresse justement aussi, je pense, à tous les âges. Et c'est aussi ça que j'aime dans ce film cinéma et dessin animé.
Alexandre Tarot est accompagné par l'orchestre de l'Académie de Sainte-Cécile de Rome sous la baguette d'Antonio Papano. Thank you. Eh bien, après Alexandre Tarot, que nous écoutions dans la musique du Roi et l'Oiseau, jeudi 5 juin, 20h30, grande scène de la Basilique Cathédrale Saint-Denis, ce sera une œuvre très rarement jouée et pourtant absolument magnifique, le Requiem de Donizetti.
En effet, alors, on connaît Donizetti pour ses opéras les plus célèbres, comme Lucia di Lammermoor ou L'Élixir d'amour. On sait moins qu'il a composé un requiem parmi d'autres œuvres, puisqu'il était très très très, très riche dans sa création. Ce requiem, il l'a composé pour la mort de Bellini, son compositeur italien, pour lequel il a voulu rendre cet hommage en 1835. Effectivement, c'est une œuvre qui est rarement donnée. Elle l'a été rarement dès sa création, puisqu'il a fallu attendre 1870 à l'époque pour l'entendre. Et en France, en particulier, on la joue très très peu. Alors, si vous allez à Bergame, davantage. Mais si vous habitez dans le Val d'Oise ou en Seine-Saint-Denis, il serait plus simple de venir à la Basilique le 5 juin avec une chef d'orchestre aussi qui est une habituée de ce répertoire italien, qui est Speranza Scappucci, très grande chef à la fois lyrique et du coup, qui me paraît particulièrement approprié pour défendre ce magnifique requiem.
Qui est d'ailleurs dans un style préverdien, on pourrait dire.
Alors c'est, je crois, ce qu'on retrouve là et qui fait souvent la marque de fabrique des derniers ouvrages de Donizetti et également dans ce requiem, en effet, c'est très annonciateur en fait de ce que sera Verdi et finalement on peut avoir une espèce de fil qui nous emmène vers un autre grand requiem du répertoire de celui de Verdi qui a été régulièrement donné là à la basilique, mais qu'on entend plus régulièrement ailleurs, et donc en effet, on va entendre déjà dans l'esprit, dans l'écriture, vraiment quelque chose qui est annonciateur de Verdi, en effet.
Bien, nos auditeurs vont se faire une idée de ce chef-d'œuvre magnifique et trop rare. Le Millennium Orchestra est placé sous la direction de Leonardo Garcia Alarcón dans un extrait du Requiem de Donizetti.
Thank you.
nous écoutions un extrait du Requiem de Donizetti qui sera donné le 5 juin à la Basilique de Saint-Denis. Jeudi 12 juin à 20h30, toujours sur la grande scène de la Basilique cathédrale de Saint-Denis, un grand chef-d'œuvre de la musique classique occidentale, La Passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach. Nicolas Candoni.
Alors, après le Requiem de Donizetti peu connu, on retrouve une œuvre emblématique du répertoire qui est également régulièrement donnée, évidemment, à la Basilique de Saint-Denis, parce que c'est un lieu sublime pour présenter un ouvrage de ce type. Donc, La Passion selon Saint-Jean, œuvre qui a été composée dans sa première version en 1724. Alors, il y a eu plusieurs versions qu'a fait Johann Sebastian Bach pour cet ouvrage. Mais voilà, donc on est à près de 300 ans après sa création. Donc, à quel point cette œuvre marque l'histoire de la musique aujourd'hui, et elle marquera aussi une émotion forte, parce que l'entendre dans une basilique, c'est pas rien, et c'est pas tout à fait pareil que de l'entendre dans une salle de concert, même si c'est très bien également. Et on aura à cette occasion le plaisir de retrouver de nouveau une chef, Marta Gardolinska, qui est une grande chef polonaise qui fait une très très belle carrière en France, et qu'on retrouvera aussi dans des grandes maisons d'opéra sur les saisons à venir, qui va diriger l'Orchestre de Chambre de Paris. L'Orchestre de Chambre de Paris est un ensemble qui a aussi beaucoup accompagné le festival dans son histoire, j'espère qu'on va continuer d'ailleurs des collaborations dans le futur. J'ai un attachement pour cet orchestre tout particulier.
Oui, qui a pris sa place maintenant dans le paysage musical.
Absolument, qui vraiment est une formation d'excellence avec, alors son chef titulaire est Thomas Engelbrook, c'est pas lui qui viendra cette année, mais en tout cas qui continue un formidable travail qui avait été fait au cours des années passées. Et là j'ai une pensée pour Lars Vogt, qui est le regretté Lars Vogt, qui avait été le directeur musical de l'Orchestre de Chambre de Paris.
Qui nous a quitté beaucoup trop tôt.
Absolument. Voilà. Et pour revenir sur une touche pour le concert, je signale aussi que nous allons retrouver une autre habituée du festival, qui est Julie Roset, bien connue, et en particulier parce qu'elle a eu la Victoire de la Musique cette année. Elle est venue déjà depuis plusieurs années au festival, et elle, donc, on la retrouve à différents moments cette édition, et notamment dans cette œuvre emblématique de La Passion selon Saint-Jean, le 12 juin à la Basilique de nouveau.
Et bien maintenant, voici le chœur final de La Passion selon Saint-Jean de Bach. Nicolaos Arnoncourt dirige le Concentus Musicus de Vienne.
Thank you.
Bach, c'était le cœur final de la Passion selon saint Jean, dans l'interprétation historiquement informée de Nicolaos Harnoncourt. Et dimanche 15 juin, 17h, changement de lieu, mais toujours emblématique, la maison d'éducation de la Légion d'honneur sur la route de Buenos Aires.
Alors, sur ce concert, j'ai envie de dire trois choses. D'une part, une série de concerts également à la Maison d'éducation de la Légion d'honneur qui fait ce qu'est ce festival aussi depuis de longues années. Or, c'est un lieu absolument extraordinaire. Et quand on ne connaît pas, on n'imagine pas de l'extérieur ce qu'est ce lieu, son parc, son pavillon. Donc c'est aussi une découverte patrimoniale quand on vient écouter un concert au festival, non seulement à la Basilique, mais aussi à la Légion d'honneur. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est on retrouve aussi Ophélie Gaillard, autre fidèle du festival. Donc on est sur une année avec un certain nombre de fidélités.
Et une chef encore.
Et remarquable violoncelliste.
En plus.
Voilà. Et d'ailleurs elle sera aussi avec la magnifique trompettiste Lucienne Renaudin-Vary, et le bandoniste William Sabatier, ainsi que les membres du quatuor Debussy. Et elle vient défendre un répertoire qui correspond aussi largement au disque qu'elle a enregistré, mais qui montre la diversité et la richesse là aussi du répertoire qu'elle explore, et finalement un peu en écho aussi à cet état d'esprit qu'a Alexandre Tarot et à l'état d'esprit qu'est le festival, c'est un peu casser des frontières, sortir aussi des seules œuvres emblématiques et d'avoir justement un jour un concert où on a vraiment cette passion, et puis un autre jour on va aller découvrir des choses qui sont des croisements, qui sont des nouveaux répertoires.
C'est un esprit que l'on partage ici à IDFM Radio.
Je m'en réjouis.
Écoutons un extrait du nouvel album d'Ophélie Gaillard, Autour du tango, avec Autumn à Porteño, c'est-à-dire Buenos Aires, l'une des pièces extraites des 4 saisons de Piazzolla. après ce concert sud-américain avec Ophélie Gaillard, qui interprétait sur IDFM Radio la musique de Piazzolla, dimanche 22 juin, 17h, encore à la maison d'éducation de la Légion d'honneur, et une autre femme à l'honneur, le retour de la merveilleuse soprano Sabine Devielle au Festival de Saint-Denis.
Alors, le concert récital de Sabine Devielle va être tourné vers des mélodies françaises, et c'est formidable d'avoir le plaisir d'accueillir une telle artiste pour défendre ce répertoire. De nouveau, dans la maison d'éducation de la Légion d'honneur, ce qui offre un écrin particulier pour pouvoir apprécier ces mélodies. Sabine Devielle était déjà venue, mais pas encore avec la même fidélité, mais c'est pour bien, sans doute pour le futur, qui sait.
Elle est très jeune.
Voilà, c'est ça, donc encore de longues années, donc nos chemins, j'espère, se croiseront de nouveau. Mais en tout cas, de venir défendre ce répertoire dans ce lieu, je pense vraiment que là, on va avoir un moment assez féerique.
Alors, avec des mélodies d'amour, c'est le programme, des pièces de Fauré, Poulenc, Roussel, Debussy. On est vraiment dans le répertoire français.
Le grand répertoire de la mélodie française qui est une des grandes caractéristiques et finalement qu'on entend assez peu en concert finalement dans les saisons à l'année. Donc c'est vraiment une occasion, je pense, exceptionnelle d'entendre ou de réentendre ces pièces à cette occasion.
Pour un récital d'une grande poésie.
Absolument.
Voici Sabine Devielle dans l'air emblématique des clochettes, extrait de l'opéra L'Acmé de Léo Delibes. Sabine Devielle chantait l'air des clochettes de L'Acmé de Léo Delibes, avec l'orchestre Les Siècles sous la baguette de François-Xavier Roth. Il y a encore beaucoup d'autres concerts, Nicolas Candoni.
Alors effectivement, sans être exhaustif, je voudrais quand même signaler aussi une autre œuvre rare qu'on aura à la Basilique, qui est un oratorio, un opéra spirituel, ou voire un singspiel spirituel, comme ça a pu être qualifié, qui est ce qu'on a appelé l'amour suprême, mais dont le titre en allemand est plutôt le devoir du premier commandement. C'est une œuvre que Mozart a composée à l'âge de 11 ans, aidée par son père, et puis aussi sans doute par Michael Haydn, mais en fait dans lequel on trouve vraiment déjà tout le Mozart qu'on connaît et qui vont faire ces grandes œuvres. Et donc là aussi, Camille Delaforge, qui est à nos côtés sur quelques saisons,
qui est une femme aussi, je précise.
Camille est de nouveau oui. Effectivement une femme en effet qui a confondé, qui dirige l'ensemble Il Caravaggio et qui donc fait ce concert, mais qui fait aussi un certain nombre d'actions à nos côtés dans ce festival. Alors ces actions deux ordres. D'abord, on travaille avec son atelier. Son atelier, c'est un endroit qui vient permettre un perfectionnement de jeunes chanteuses et chanteurs qui sont à l'aube de leur carrière lyrique, et donc donner aussi un espace pour travailler et se présenter à de jeunes artistes, c'est important pour un festival, et pour un festival comme le nôtre, en tout cas moi j'y suis très attaché, et par ailleurs de faire des rencontres avec des publics qui sont pas forcément ceux qu'on retrouve systématiquement dans les grandes salles de concert classiques, et donc on va dans les lycées, on va dans les collèges, et on mène des actions toute l'année de sensibilisation, de découverte au rythme, la musique, au son, à du répertoire, à de l'histoire de la musique, à de l'histoire culturelle plus largement d'ailleurs. Et ensuite, ils viennent au concert. Et on a eu un concert avec Camille Delaforge la semaine dernière, où une classe de Mantes-la-Jolie est venue. Et c'était absolument formidable, parce que ces élèves du lycée de Mantes-la-Jolie, je pense que c'était probablement la première fois qu'ils entendaient un concert dédié à de la musique française du XVIIe siècle, et ils en sont ressortis ravis. Et ça, c'est vraiment, je trouve, très enthousiasmant pour nous en tant que festival de pouvoir faire ces actions-là de cette manière.
Ça crée de nouvelles vocations de mélomanes.
Alors, on espère en tout cas, c'est aiguiser la curiosité, permettre de découvrir un répertoire, peut-être donner envie de jouer un instrument, et qui sait d'en devenir professionnel, mais c'est pas non plus une obsession de ma part, en tout cas, faire de la pratique instrumentale et écouter. Et l'écoute, je crois que c'est ça qu'on peut chercher à faire et à susciter, en fait.
On n'a pas besoin d'avoir fait des études de musicologie ni de jouer trois instruments pour
non,
ça.
Non, je crois que justement, c'est ça qui est important à se dire, à redire, à partager. On n'est pas obligé d'aller au CRR de Cergy, même si c'est très bien, pour aimer la musique, pour l'apprécier, pour avoir envie de la découvrir et pour faire de la pratique instrumentale. Il y a plein de manières de le faire. Et donc, voilà, si ça suscite des idées, des envies, eh bien, on aura tout gagné avec ce travail.
C'est important de le dire, Nicolas Candoni.
Moi, je pense que c'est le plus important au fond. C'est s'adresser au public, au jeune public, au public de demain, et pas qu'au public, à ceux qui font la société des prochaines années, et de le partager avec ces jeunes. C'est vraiment une mission absolument fondamentale.
Oui, un objectif essentiel.
C'est un objectif essentiel. Par ailleurs, vous l'avez rappelé, j'ai passé quelques années à la ville de Paris, et les institutions publiques, vous le savez, sont particulièrement engagées dans cette question-là, que ce soit avec les conservatoires, que ce soit dans toute une série de formes d'éducation artistique et culturelle, parfois dès la petite enfance. Et moi, je souhaite évidemment prolonger cet engagement au quotidien dans mes fonctions au festival.
Il y aura aussi un ciné-concert.
Alors oui. Ça devient maintenant un grand rendez-vous du festival à l'occasion de la Nuit Blanche. Il y avait eu déjà ce rendez-vous l'année dernière avec un Jeanne d'Arc de Dreyer,
grand classique du
cinéma muet. Et cette année, on va trouver un autre grand classique du cinéma muet, qui est Métropolis de Fritz Lang. Donc une autre œuvre absolument exceptionnelle, géniale. Et ce qui est intéressant, c'est que nous proposons, en fait, puisque ce sont des films muets, une musique qui est une musique improvisée et qui sera improvisée à l'orgue par le titulaire de l'orgue, Quentin Guérillot. Et pour moi, je trouve que c'est important et je suis ravi que ça ait été initié et qu'on le retrouve cette année. C'est aussi d'entendre l'orgue à cette occasion. Le festival, il est quand même historiquement lié à la basilique de Saint-Denis, qui n'est pas n'importe quel lieu en France. Et il a aussi un orgue exceptionnel. C'est le premier grand cavaillé école de 1841, avant tous les grands orgues qu'on peut connaître en France. C'est son premier. Et alors, c'est pas uniquement parce que c'est son premier, c'est-à-dire que c'est quand même un grand orgue de cavaillé école, et que c'est important finalement d'entendre et de profiter de cet instrument et de l'entendre aussi d'une autre manière que dans des œuvres qu'on peut déjà connaître, la toccata et fugue de Bach, etc., qui sont absolument sublimes, mais aussi d'entendre différemment l'orgue et dans un ciné-concert, c'est une autre manière de découvrir cet instrument et je crois que là, ça fait vraiment sens pour le festival.
Donc, premier cavalier école dans un premier chef-d'œuvre de l'art gothique.
Absolument, donc ça fait une grande rencontre avec le patrimoine de la France, avec le patrimoine du cinéma, je dirais mondial, aussi, avec ce Métropolis. Donc, beaucoup de choses à découvrir, à redécouvrir à cette occasion. Et c'est donc pour la Nuit Blanche, le 7 juin, à la Basilique.
Alors, parlons aussi du prix des concerts. Les prix sont très accessibles, alors, Nicolas Candoni.
Évidemment, c'est un sujet majeur, c'est-à-dire que si on souhaite aussi que le public vienne à des concerts, il faut non seulement qu'il y ait une programmation qui fasse envie dans un lieu exceptionnel, mais aussi que les tarifs soient accessibles. On sait, il y a pas mal d'études qui ont été faites par, que ce soit le Centre National de la Musique ou d'autres établissements, que le tarif peut être un frein pour les publics. Il y a plusieurs freins pour aller éventuellement à un concert et un concert classique, mais le tarif en fait partie. Et donc nous, on est soucieux de trouver l'équilibre pour le festival, et qu'ils puissent perdurer, mais que les publics puissent venir et puissent venir aussi en famille. Et ça, c'est sans une tarification adaptée. On sait que c'est rédhibitoire, donc on est attaché à ces tarifs accessibles.
Près de 50% des places sont à moins de 30 euros.
Absolument. Donc, ce qui laisse donc une grande possibilité, à mon sens. Et même les premières catégories restent, je crois, encore assez accessibles, même si elles varient entre 50 et 65 euros selon les concerts. Et si on regarde par rapport à d'autres lieux en région parisienne, je crois qu'on a plutôt des tarifs qui sont bien pour venir.
Et par rapport aux concerts de rock, qui sont souvent beaucoup plus chers.
Alors effectivement, si on regarde sur des grands festivals ou sur des grandes salles, Arena et autres, si on fait cette comparaison, on se rendra compte en effet que c'est vraiment accessible.
Une dernière question, Nicolas Candoni. Vous pourriez peut-être, sans trahir de secret, donner à nos auditeurs quelles pourraient être les grandes lignes du prochain festival que vous allez manager en 2026 ?
Je ne trahirai donc pas de secret, comme vous l'indiquez, puisque nos discussions vont bon train pour travailler et finaliser la programmation 2026. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est que on va retrouver des grandes œuvres emblématiques du répertoire. Ça, de toute façon, c'est un intangible. Et donc, on va effectivement avoir des points de rencontre, je dirais en continuité avec des grandes œuvres de cette année. Et puis, toujours la volonté de la découverte, avec aussi, il y aura une création, mais une création qui va regarder dans différents univers musicaux et donc qui, je crois, sera vraiment quelque chose d'accessible pour tout le monde et qu'on aura plutôt envie de découvrir. Voilà. Et puis, ce qui sera important, c'est aussi une place pour les jeunes artistes qui sont en début de carrière. Et l'année prochaine, on est en train de travailler sur quelques rencontres importantes aussi pour continuer à découvrir des artistes qu'on n'a pas déjà entendus ou très peu.
C'est essentiel pour les jeunes de leur donner cette chance de pouvoir s'ouvrir à un public plus large.
Absolument. D'abord, faire une carrière aujourd'hui, c'est quand même pas forcément simple pour les artistes.
Hein.
Il y a une énorme concurrence. On connaît la situation au-delà de la France, en Europe. Et donc, je trouve qu'il y a une responsabilité de la part des programmateurs et d'un festival en particulier de leur permettre de rencontrer des publics, de rencontrer des nouveaux publics, donc à la fois sur des passionnés de musique classique, mais aussi des publics qui ont envie de découvrir par simple curiosité, et toujours des publics jeunes. Ça, c'est vraiment un leitmotiv pour avoir une note wagnérienne à ce stade.
Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Candoni. Merci de nous avoir fait partager votre passion, vos passions, d'ailleurs, pour toute cette forme de musique, pour ces jeunes artistes et pour ces femmes chefs d'orchestre, et pas seulement. Nous vous souhaitons une très bonne journée et un excellent festival.
Merci à vous.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Bonjour Daniel Garlitsky.
Bonjour Christophe Gravon, merci de me recevoir.
Ravi de vous accueillir en balade musicale sur IDFM Radio. Vous êtes le violoniste et co-leader avec le guitariste Duved Dunaïevski du quintet du Hot Club de France. Mais le jazz n'est qu'une partie plutôt récente de vos nombreuses activités de musicien. Vous descendez d'une lignée de célèbres violonistes et pédagogues russes. Vous êtes né à Moscou, où vous avez débuté vos études musicales à la fameuse école des surdoués Gnessine. Votre famille s'installe à Paris quand vous avez 9 ans. Vous êtes admis au CNSM dont vous sortez brillamment. En tant que soliste, vous êtes invité par de nombreux orchestres en Europe et dans le monde. En musique de chambre, vous partagez la scène avec de très grands musiciens comme Gidon Kremer, Maria Jao Pires, Augustin Dumais ou Antoine Tamestit. Votre répertoire est particulièrement vaste, du baroque primitif, Monteverdi, Lully, à la musique de notre temps. En France, Philippe Hersant, Thierry Esquèche, aux États-Unis, des compositeurs comme Phil Glass ou John Adams. Et vous êtes également compositeur pour des films et des séries télévisées et arrangeur dans des styles musicaux très variés. Et outre vos dons de pédagogue en Allemagne, puis au CNSM de Paris, où vous enseignez le violon, vous êtes aussi acteur au cinéma. Nos auditeurs pourront apprécier vos talents de comédien dans le film Les Musiciens, un film de Grégory Magne avec Valérie Donzelli, Frédéric Pierrot, actuellement en salle. Après un tel parcours ponctué de si nombreuses activités, j'aurais une première question, Daniel Garlitsky. Qu'est-ce que vous ne faites pas dans votre vie d'artiste ?
Bien Christophe, mais déjà, puis-je me permettre de vous poser la question, comment savez-vous tout ça ?
Mais on est bien informé ici à IDFM Radio.
Je vois ça. Eh bien, pour vous répondre, non, il y a quand même plein de choses que je ne fais pas encore. J'ai beaucoup de désirs, beaucoup de choses encore à réaliser. Tout ce qui touche de près ou de loin à la musique, je m'y attelle.
Bien, bah c'est une réponse ouverte. Au milieu de toutes ces activités, dans quelles circonstances avez-vous trouvé le temps de faire renaître le fameux quintet du Hot Club de France de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli?
Bien, c'est tout d'abord une aubaine, c'est une chance, et puis c'est beaucoup de travail aussi, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé tout de suite. Moi, j'ai commencé à faire ce style de musique il y a 6-7 ans. Avec Duved, c'est lui qui m'a vraiment donné l'envie de m'y mettre sérieusement. Moi, j'avais sur mon répondeur à l'époque où j'étais étudiant au conservatoire en 99, un vrai répondeur de ligne fixe, j'avais une mélodie de Django Reinhardt, donc c'est une musique que j'affectionnais depuis toujours, mais que je ne savais pas jouer, donc il fallait tout d'abord que moi je puisse apprendre ce langage. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à jouer de plus en plus dans un style, dans ce style-là qui est très défini. On a rajouté une guitare rythmique et puis un petit peu avec un trait d'humour, j'ai dit, mais là, il faudrait qu'on s'appelle le nouveau quintet du Hot Club de France. C'était il y a quelques années, on a rigolé et puis maintenant, c'est vraiment arrivé.
Alors, c'est un style qui mêle le jazz au manouche?
Alors, oui, c'est un style qui a été inventé par un musicien manouche qui jouait du jazz. Le terme jazz manouche est venu bien plus tard. Ouais. Lui, c'était un manouche qui jouait du jazz. Et donc, quand on parle, moi, je préfère dire qu'on joue la musique de Django, le jazz traditionnel ou le jazz hot, comme on l'appelait en France à l'époque. Oui. Parce que pour moi, c'est un style qui est un peu plus traditionnel que le style manouche quand on l'évoque.
Alors c'est une musique qui a donné en France un apport très original. C'était dans les années 30, la création du quintet du Hot Club de France, ça remonte à 1933-34.
Alors ils ont fait leur premier concert en décembre 1934 à la salle Cortot, qui s'appelait à l'époque juste la salle des concerts de l'école de musique du Vivant de Cortot. Il n'avait pas donné son nom. Et nous, pour l'anecdote, on a donné notre premier concert officiel sous le nom Quintet du Hot Club de France en décembre 2024. Donc 90 ans et 2 semaines après leur premier concert.
Et nous y étions. Nous avons apprécié ce concert. C'était c'était vraiment très joyeux. Voilà, c'était très joyeux, très festif et en même temps une très belle musique.
Mais on était très heureux d'être là. C'était une sorte à la fois d'accomplissement pour nous. Donc on était contents pour cela, mais c'était aussi le début.
On va écouter un premier extrait de votre album qui est sorti sous le label PLM. C'est un standard des années 20, 30 ou 40. There will be some changes made. Some Changes Made, un standard par le quintet du Hot Club de France, dont nous recevons aujourd'hui le violoniste Daniel Garlitsky. Dans quel répertoire est-ce que vous avez puisé les 15 titres de votre album, Daniel ?
Alors pour ce premier album, on a décidé d'enregistrer des standards des années 20, 30, il y en a un des années 40 qui n'ont pas été enregistrés par nos aînés, par le quintet du Hot Club de France originel. Et il y a aussi 3 compositions de Douved et moi-même qui sont dans ce style-là, années 20, 30.
Alors présentez-nous justement vos 4 partenaires du quintet.
Alors le co-leader du groupe Douved Dounaïevski, guitariste israélien qui est installé à Paris depuis une dizaine d'années. À la contrebasse, nous avons un australo-japonais, Scott Keller. Puis nous avons aux guitares rythmiques Andrea Soria, italien, et Pierre Richeux, parisien.
Ah, un parisien.
Un parisien.
Écoutons un second titre, Happy Feet, encore un standard. Happy Feet par le quintet du Hot Club de France, dont le violoniste Daniel Garlitsky est notre invité sur IDFM Radio en balade musicale. Vous avez certainement des dates de concert avec et peut-être sans le quintet du HCF.
Oui, absolument. On va faire l'ouverture le 14 juin prochain du festival Django Reinhardt à Samois-sur-Seine, ville de résidence de Django Reinhardt.
Près de Fontainebleau.
Près de Fontainebleau. Et puis nous serons au Bal Blomé le 18 juin.
Très très bel endroit, vraiment parfaitement adapté à la musique de chambre et à la musique de jazz aussi.
Absolument, et puis on est très très content d'être là-bas, toujours c'est un peu comme notre seconde maison. Puis on sera à Annecy en juillet, le 4 juillet prochain, pour le festival du Jazz Club d'Annecy. Puis il y aura d'autres dates un peu partout en province à partir de septembre.
Et là, on pourra regarder sur votre site ou celui du Quintet.
On pourra regarder effectivement sur hc5.fr, le site du Quintet de Club de France.
Parfait. Parlons aussi de vos activités d'acteur avec ce film Les Musiciens qui est actuellement en salle.
Oui, effectivement. J'ai eu cette chance de tourner dans un long métrage, le troisième long métrage de Grégory Magne, qui a réalisé en 2019 Les Parfums, notamment avec Grégory Montel et Emmanuel DeVos. Et moi, j'ai eu un coup de fil un bon matin de Grégoire Hetzel, qui est le compositeur de la musique de cette très belle musique de ce long métrage, et qui m'a demandé si je pouvais jouer la comédie. Et je lui ai dit, moi je veux bien essayer, et j'ai essayé et j'ai été pris, donc ça s'est plutôt pas mal passé pour moi.
Eh bien, nos auditeurs pourront venir vous voir faire l'acteur. Vous êtes d'ailleurs membre d'un quatuor.
Absolument.
Un
quatuor à cordes qui a été constitué pour l'occasion. Il y a un peu de discorde entre les membres, si je puis dire.
C'est ce qui arrive souvent d'ailleurs dans les membres de quatuor à cordes, parce que c'est pas facile de vivre ensemble à quatre.
Ben, je pense que c'est deux fois plus difficile qu'à deux, donc tout le monde peut se forger sa propre idée.
Avant de se quitter, Daniel Garlitsky, on va écouter un autre thème que vous avez gravé avec le quintet du Hot Club de France, Whispering.
Whispering par le Quintet du Hot Club de France sur IDFM Radio avec notre invité, le violoniste Daniel Garlitsky. Extrait d'un album procurant un très grand plaisir d'écoute et beaucoup d'optimisme, on en a besoin actuellement, qui est sorti sous le label PLM. Merci beaucoup Daniel Garlitsky.
Merci Christophe.
Très bonne journée et bon concert.
Merci beaucoup.
Quant à moi, Christophe Gravreau, je vous donne rendez-vous demain dimanche 11h pour une nouvelle balade musicale. Merci à Francky à la technique et restez à l'écoute des programmes de IDFM Radio.